Bonjour, je suis Cathy, créatrice et animatrice du podcast My Polyglot Life en français et coach NeuroLanguage. En général, j'aide des adultes qui apprennent le français et veulent atteindre un niveau avancé, mais aussi des adultes francophones qui veulent améliorer leur communication en anglais. Mais cette année, j'ai décidé de faire une pause pour me confronter à un nouveau challenge, enseigner l'anglais au Japon dans le cadre du JET programme. Dans cette saison du podcast, la cinquième, je partage avec toi des moments de ma vie ici et les réflexions que ça m'inspire. Je vais parler de l'école japonaise, d'éducation, de la vie d'expatrié et de la culture japonaise et aussi de mon propre apprentissage de la langue. Bonne écoute! Bonjour! Le titre de cet épisode aujourd'hui, c'est « Le secret pour atteindre le niveau avancé ». Alors, je ne vais pas te faire patienter tout l'épisode, je vais te révéler ce secret dès maintenant. Le secret, c'est beaucoup de travail et des efforts. Voilà. Désolée, c'est pas un secret très cool et tu vas peut-être te dire « Oh mon Dieu, non, ça a pas l'air fun !» Mais bon, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas être fun. Le processus peut être fun et plaisant. Mais c'est sûr que si tu veux atteindre un niveau avancé ou très avancé, il n'y a pas de secret en fait. C'est juste qu'il faut passer beaucoup de temps à interagir avec la langue et dans la langue. Et qu'il faut quand même étudier certains concepts, des nuances, enfin toutes ces petites choses qui vont te permettre d'accéder à une connaissance plus approfondie de la langue et à une meilleure précision dans ce que tu peux comprendre et ce que tu peux exprimer. Donc voilà. Ceci dit, j'ai annoncé la grande nouvelle et le secret qui n'est pas un secret, mais je voulais aussi, dans l'épisode d'aujourd'hui, te parler de la question des plateaux, parce que c'est quelque chose qu'on rencontre toujours, tout le monde rencontre ces plateaux-là dans l'apprentissage. Il y a des moments où on va progresser très vite, après on stagne ou on progresse lentement. Puis à un moment, il y a un déclic, il se passe quelque chose et d'un coup, on a l'impression d'avoir passé un niveau ou d'avoir passé une marche supplémentaire et que d'un coup, il y a quelque chose qui s'est débloqué. Donc c'est assez difficile à expliquer parfois. L'épisode d'aujourd'hui, je ne l'ai pas écrit entièrement, j'ai pris quelques notes, mais ça va se présenter plutôt un peu comme une base. Je dirais sous forme d'une consultation où je vais te parler de cette expérience de l'apprentissage et de comment te sortir de ce niveau intermédiaire pour finalement accéder ou approfondir le niveau avancé en français ou dans la langue que tu désires. Donc, je ne vais pas t'expliquer comment passer ces plateaux parce qu'il n'y a pas une solution miracle là non plus. Chaque personne est différente et donc la manière de passer ces plateaux peut être différente pour chaque personne. Donc, je vais surtout t'inviter, toi, à réfléchir à ce qui fonctionne pour toi et à comment tu pourrais passer à la prochaine étape de ton apprentissage. Et je vais te partager comment ça se passe pour moi, en tout cas dans l'expérience que je suis en train de vivre actuellement avec le japonais, où je suis encore loin, très 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 loin du niveau avancé, mais je suis mieux installée dans le niveau intermédiaire. Là, j'ai l'impression récemment d'avoir passé un cap et je vais t'expliquer un peu ce qui s'est passé pour moi à ce moment-là et comment je le ressens au quotidien et les sensations que ça me procure en ce moment qui, en fait, me motive à fond là pour continuer d'avancer. Donc voilà, il faut profiter de ces périodes où tu es dans une dynamique positive et y aller à fond dans ces moments-là. Puis dans les moments où tu stagnes un peu, juste rester constant, consistant, continuer de pratiquer et de maintenir cet engagement avec la langue, même si tu ne vois pas les résultats dans l'immédiat. C'est un truc qui se construit sur des mois, des semaines, et donc tous ces petits pas que tu accumules, au bout d'un moment, tu te réveilles, tu regardes en arrière et tu te dis « Ah mais ouais, mais ça y est là !» Tout se met en place et il y a quelque chose qui a cliqué et qui s'est passé. Donc, c'est toute l'accumulation de ces petites choses qui fait que tu vas passer cette étape, à la prochaine étape. Si on repart au tout début, donc quand on est au niveau débutant, on fait des progrès très rapidement parce que c'est la découverte, y a la joie d'apprendre des nouvelles choses, on a des choses un peu plus simples à apprendre. On va commencer avec l'alphabet, enfin des trucs qu'on maîtrise assez rapidement. Donc on fait des progrès très très rapides sur les bases. Donc on comprend encore pas grand chose, on n'est pas capable de s'exprimer, mais on accumule pas mal de succès dans la découverte de la langue. En fait, on découvre plein de trucs et ça, c'est assez fascinant. Et après, il faut le temps que les choses se mettent en place. Et puis, là aussi, un jour, avec l'accumulation des choses que tu apprends, d'un coup, tu te rends compte que ça y est, tu es capable d'avoir une conversation dans la langue cible, que tu comprends certaines choses. Et ça y est, tu dis, ah, je suis peut-être plus complètement débutant. Je peux dire que je parle un petit peu, je peux commencer à interagir dans la langue. Et là, tu commences à entrer dans le niveau intermédiaire. À partir du moment où tu es capable, selon le cadre européen de référence des langues, à partir du moment où tu es capable de parler de ton quotidien, de ton travail, de ta famille, d'exprimer une opinion simple, ça j'aime, ça j'aime pas, avec un parce que ceci ou cela, une raison très simple, là on considère déjà que tu entres dans le niveau intermédiaire. Mais là où c'est trompeur, là où on a une fausse représentation, c'est qu'on parle du niveau intermédiaire. Mais le niveau intermédiaire, il est énorme en fait. Il est hyper long. Si on prend l'échelle québécoise, je trouve qu'elle est assez claire parce que c'est une numérotation de 1 à 12. Donc, niveau débutant, c'est de 1 à 4 et ça t'emmène là où j'ai dit. Donc tu es capable de ce qui correspond à peu près au niveau juste fin du A2 dans le cadre européen. Où tu peux te présenter, parler rapidement de ta famille, de ton boulot, sans entrer dans les détails, et puis peut-être donner quelques infos sur ce que tu aimes ou n'aimes pas. Et ensuite, on rentre le niveau intermédiaire. Au Québec, c'est numéroté de 5 à 8, et le niveau avancé de 9 à 12. Mais je pense que pour beaucoup de monde, quand on est au niveau 9-10, on est dans le B2, B2 supérieur, peut-être un petit C1. Et pour beaucoup, on se considère encore intermédiaire. C'est se dire, j'ai un niveau avancé, c'est vraiment une étape très, très lointaine. Il faut de la confiance en soi pour oser dire, j'ai un niveau avancé. Je parle couramment, je ne suis pas parfait, mais j'ai une connaissance suffisamment approfondie de la langue pour oser dire que j'ai un niveau avancé. Et ça, beaucoup de personnes qui viennent me voir, on pourrait considérer qu'elles ont un niveau avancé en termes de compétences linguistiques. Souvent, c'est des gens, si elles se présentaient au niveau C1, donc sur le format de l'examen, peut-être qu'elles n'arriveraient pas à suivre complètement le format de l'examen, mais sur les connaissances grammaticales et tout, la personne a un niveau C1, mais elle ne se ressent pas à un niveau à avancer parce qu'il y a toutes ces nuances de la langue, ces petites choses, ces erreurs qui persistent, qui lui font dire « ouais, mais non, je ne me sens pas avancé, je me sens encore à un niveau intermédiaire ». Donc tu vois, le niveau intermédiaire, il va du moment où tu es capable d'exprimer un petit peu ce que tu aimes, n'aimes pas, avec une raison simpliste, on va dire, comme pourrait le faire un enfant de 7-8 ans, jusqu'à un niveau où tu es capable de quand même relativement bien communiquer, de participer aux conversations, de comprendre les grandes lignes de ce qui se passe dans les informations, les journaux, etc. Mais il te manque soit cette confiance en toi ou cette pratique, cette fluidité qui va te faire sentir légitime à dire « j'ai un niveau avancé ». Donc voilà, c'est pas un niveau intermédiaire, c'est des niveaux intermédiaires et une très 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 longue période de niveau intermédiaire avec beaucoup de plateaux, des moments où il y a tellement de trucs à apprendre. T'apprends plein de trucs, mais ça part dans tous les sens, où J'apprends un petit bout de grammaire ici, puis un autre petit bout là, et puis plein de vocabulaire. Donc tout ça, ça met énormément de temps à se mettre en place. Et c'est pour ça que tu as l'impression que tu es dans un marécage et tu patauges et t'avances pas. Mais c'est pas vrai, en fait, tu avances quand même. Mais je pense qu'à un moment, il faut un fil directeur. Et donc c'est ce que je te propose de faire dans le programme de coaching Feuille de route. Où c'est pour te sortir un petit peu de ce marasme et de ce marécage intermédiaire où tu as fait plein de choses, mais là, tu as besoin d'une ligne conductrice, d'un fil directeur qui va te permettre de dire « je vais concentrer mes efforts sur telle ou telle chose ». Et comme ça, au moins, je vais pouvoir voir mes progrès et c'est ça qui va entretenir la motivation. Bon, dans le programme Feuille de route, il y a aussi l'aspect mental où on travaille sur cette confiance en soi ou les blocages qui peuvent, les saboteurs qui peuvent te faire te sous-estimer. Donc voilà, il y a plusieurs dimensions. Quand on arrive en haut du niveau intermédiaire, au moment de passer au niveau avancé, c'est pas que des compétences linguistiques, mais c'est aussi du mindset et des pensées négatives ou des schémas de sabotage. Ou de manque d'organisation qui peuvent arriver et t'empêcher de passer à cette étape supérieure. Donc, pour en revenir aux descriptions du niveau intermédiaire, je dirais que quand tu es au niveau B1, B2, c'est un niveau intermédiaire solide, quoi. T'es capable d'interagir au quotidien si on te met dans un pays de ta langue cible, donc si on te met en France, peut-être au Québec avec quelqu'un qui n'a pas un accent très fort, tu es capable de naviguer dans la vie quotidienne, de réussir à faire les démarches, les achats, d'interagir avec des gens. Et il y a encore des erreurs, des incompréhensions, mais tu te débrouilles, ça va. Après, quand on arrive à un niveau B2-C1, donc là, c'est un solide niveau intermédiaire supérieur ou petite avancée, mais souvent tu as des compétences inégales. Soit tu vas être meilleur à l'écrit parce que tu as étudié peut-être à l'université, donc tu vas comprendre très bien les écrits, t'exprimer très bien à l'écrit, mais peut-être que à l'oral, comprendre le français oral et t'exprimer de façon fluide, ça va être plus difficile. À l'inverse, si tu vis dans le pays, tu vas peut-être avoir une grande fluidité, mais encore beaucoup d'erreurs ou d'incertitudes au niveau de la grammaire. Et ça, ça peut te tirer vers le bas, t'empêcher d'atteindre vraiment ce niveau avancé avec un taux d'erreur assez faible. Et ça, j'en parle dans un autre épisode, l'épisode 80 ou 79 ou 80, où je parlais aussi des niveaux avancés et des différentes situations. Selon comment tu as appris le français, dans quel contexte et les méthodes d'apprentissage. Donc voilà, pour sortir du niveau intermédiaire, aller au niveau avancé, c'est sûr qu'il faut beaucoup de travail et beaucoup de temps. Notre cerveau fonctionne, le schéma de l'apprentissage fonctionne en plusieurs étapes. Et pour arriver au dernier niveau où c'est automatisé, où tu n'as pas besoin de réfléchir au moment de parler, où t'as pas besoin de réfléchir aux règles de grammaire parce que ça sort correctement, directement, sans que tu aies besoin d'y penser ou d'y consacrer beaucoup d'énergie. Avant d'en arriver à ce point-là, il faut beaucoup de répétitions. Donc automatiquement, les répétitions, il faut du temps. Notre cerveau est pas capable de tout emmagasiner les informations en même temps. Tu peux lui balancer 50 informations en même temps. Ton cerveau va trier par ordre de priorité. Donc les moins importantes, il va se dire « c'est peut-être pas la peine que j'apprenne tout maintenant, la 50 c'est trop, je dois faire des choix ». Donc il va faire les choix en fonction soit des choses qui sont les plus faciles pour des raisons qu'on ne contrôle pas toujours. Il y a une sonorité qui ressemble à ta langue maternelle, donc ce mot tu vas le retenir très facilement alors que tu n'en as pas forcément besoin au quotidien, mais tu vas le retenir. Et un autre mot dont tu as besoin au quotidien, tu vas continuer à le confondre avec un autre pour une raison qu'on ne peut pas s'expliquer, mais qui va demander plus d'efforts et plus de répétitions. Donc automatiquement, tout ça, c'est du temps, et c'est surtout du temps de qualité qu'il faut consacrer, donc avec ton attention maximale sur l'apprentissage. mais aussi l'immersion. Il va faire que ton subconscient va aussi enregistrer plein de choses et t'es pas obligé d'apprendre tous les mots que tu connais, en fait. Il y en a, tu vas les absorber directement. Mais pour ça, il faut énormément d'exposition passive et d'exposition active avec une attention vraiment sur ce que t'es en train d'essayer d'apprendre. Donc, un point commun aux activités qui ont un impact dans l'apprentissage, c'est le plaisir. J'y reviens toujours, mais plus on a du plaisir dans le processus, et plus ça va augmenter notre motivation et on va avoir envie de continuer. Même si c'est difficile, bah, y a quelque chose qui fait qu'on a envie de continuer et d'y revenir. Donc, ça c'est vraiment important de prendre du plaisir dans les activités. Ou alors de prendre du plaisir parce que tu vois que ça a un impact. Tu vois les résultats et donc tu te dis, bon, bah, j'ai peut-être pas envie d'aller, si on prend la course à pied, j'ai peut-être pas envie d'aller courir 20 minutes parce qu'il fait froid, je suis fatiguée. Mais si après, je sais que je vais être bien, que je vais être mieux, bah, je sais qu'il faut que je le fasse quand même. Donc je vais le faire et puis après, je me sentirai mieux. Donc c'est la même chose avec l'apprentissage. Il y a des activités, c'est peut-être moins fun, mais parfois elles sont nécessaires, au moins pendant une certaine période de temps. Maintenant, je vais te parler de mon expérience personnelle et de ce que j'ai fait, ce qui s'est passé avec le japonais là, ces derniers temps, quand j'ai l'impression d'avoir passé un plateau. Là, c'était un très 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 long plateau où j'avais pas l'impression d'avancer beaucoup, un petit peu quand même, parce que en vivant ici, j'arrive un peu plus facilement à avoir certains automatismes, mais franchement, il y a tellement de mots inconnus, de vocabulaire, de trucs que j'apprends puis que j'oublie, que c'était assez décourageant. Mais là, je vois une petite lumière au bout du tunnel, encore très loin. Le bout du tunnel est encore loin, mais j'ai une petite lueur d'espoir. Et donc voilà, ce que j'ai fait, bah d'abord, c'est vivre au Japon. Et effectivement, quand tu vis en immersion, tu attrapes certains automatismes, un peu de vocabulaire, des formules idiomatiques, donc toutes ces petites phrases qu'on peut dire au quotidien. Donc ça, bien sûr, tu les absorbes beaucoup plus vite quand t'es dans le pays que quand t'es à l'étranger. Mais ça fait pas tout. Tu peux stagner pendant très longtemps. Il y a des gens qui viennent me voir aussi pour du coaching linguistique, ça fait des années qu'ils habitent en France et ils ont arrêté de progresser, ils stagnent à un niveau intermédiaire et c'est pas le fait de vivre dans le pays qui va te permettre de corriger des erreurs de grammaire fossilisées ou d'apprendre du vocabulaire au-delà de celui que tu utilises au quotidien. Ça, il faut vraiment une démarche active pour surpasser ça, pour dépasser ça. Donc ce que j'ai fait, c'est ça fait peut-être 7 ou 8 mois maintenant, je suis un cours en ligne chaque mois. Dans le cadre du programme que je fais, on a accès à un cours en ligne avec des petites vidéos de grammaire ou des conversations aussi, des modèles de conversation. Et donc on étudie des points de vocabulaire et de grammaire. C'est beaucoup d'accumulation de savoir et de concepts que j'ai pas le temps ni l'occasion de pratiquer, donc j'en oublie beaucoup. Je les apprends, je les oublie, je révise mes notes et je me ressouviens de certaines choses que j'ai vues il y a quelques mois. Ça crée beaucoup de frustration, donc si tu as connu cette situation où tu étudies le français depuis des années, t'as l'impression que tu revois toujours les mêmes concepts, que tu les oublies. C'est normal, c'est la façon d'apprendre. Même si on voit un concept, on est obligé de le réviser parce que bah, quand il est introduit, on va pas voir toutes les nuances. Donc de toute façon, on peut toujours approfondir un concept. Et en plus, la compréhension que tu vas avoir la première fois qu'il est introduit, elle sera moins complète que quelques mois plus tard, quand tu auras eu plus d'exposition, que tu auras rencontré ce schéma-là dans des conversations, tu vas avoir une compréhension plus élargie. Et aussi le fait que comme tu vas comprendre de plus en plus de choses, tu vas pouvoir te mettre tout d'un coup à entendre ce concept beaucoup plus. Le reste de la phrase sera maîtrisé, donc tu ne vas pas dépenser ton énergie sur le début de la phrase peut-être. Et quand le concept qui est encore pas clair arrive, là tu peux y consacrer toute ton attention parce que le reste est connu. Tu n'as plus qu'un élément inconnu dans la phrase peut-être. Donc c'est pour ça que c'est nécessaire de revenir toujours sur les mêmes choses. C'est pas toi qui as un problème, c'est normal, c'est comme ça que ça marche. On améliore notre connaissance petit à petit et notre cerveau va automatiser, compléter l'image qu'il a de ce concept et puis va automatiser son usage si tu te mets à l'employer et à l'utiliser de façon active. Donc ça, c'est le cours en ligne chaque mois qui était beaucoup d'accumulation de savoir, mais aussi de frustration, qui n'a pas eu un impact immédiat sur ma capacité de m'exprimer, parce qu'il faudrait une mise en pratique vraiment systématique des concepts et une répétition, ce que je n'ai pas fait. Et en fait, bizarrement, je pense que le facteur qui a vraiment fait la différence pour moi pour dépasser le plateau, c'est quand je suis rentrée 3 semaines en France. Donc j'étais plus du tout en immersion. J'étais en France, mais j'avais plus mon travail à plein temps à l'école. Donc j'avais du temps. J'ai continué à faire ces cours en ligne. J'ai acheté un livre. C'est pas de la fiction, mais c'est pas un manuel d'apprentissage. C'est vraiment un livre pour lire. Donc j'ai continué à lire ce livre, j'ai regardé beaucoup plus de choses sur Netflix ou sur YouTube. Enfin, j'ai essayé vraiment de continuer cette immersion, même en étant en France. Et je pense aussi parce que j'avais l'esprit plus libre, plus disponible pour cet apprentissage. C'était ça mon activité principale qui me distrayait d'une situation pas très facile par ailleurs dans ma vie personnelle et familiale. Donc je suis un peu revenue au japonais comme source de distraction et de trucs pour m'occuper dans ma journée. Et bah, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai senti un truc qui a changé. J'ai commencé à reconnaître plus de lettres, à faire plus de connexions entre des mots de vocabulaire. Enfin, voilà. Donc vraiment, j'ai senti que ça commençait à bouger. Et puis ensuite, j'ai acheté un livre destiné aux apprenants. Donc quand on te dit, voilà, essaye d'aligner tes intérêts avec ce que tu fais dans la langue, j'ai acheté un livre sur l'histoire du Japon, enfin, pas que l'histoire du Japon. Ce sont des très courts chapitres sur des points en rapport avec l'histoire ou la culture japonaise. C'est en japonais, mais avec une explication du vocabulaire, une traduction en anglais, des fiches Anki. Donc, je ne sais pas si tu connais l'application de flashcards Anki. Anki Droid pour les Android ou juste Anki tout court pour les iPhones. C'est quelque chose que j'avais essayé par le passé et je n'avais jamais accroché Anki. Ça ne me parlait pas. Je sais que c'est une méthode super efficace pour apprendre du vocabulaire. Mais c'était pas le bon timing pour moi et j'ai pas accroché. Alors que là, ça répondait à un besoin. C'est-à-dire que ces fiches, ces flashcards Anki, avec le vocabulaire utilisé dans les histoires, ça me permet d'apprendre le vocabulaire et ensuite d'aller retourner lire cette histoire en connaissant le vocabulaire. Ça change tout. D'un coup, je peux lire d'une façon plus fluide et à peu près comprendre ce qui se passe parce que je connais les mots. Je ne suis pas obligée de m'arrêter tous les 3 mots pour chercher une définition. Donc si toi, je ne sais pas si ça existe en français ce concept, mais si tu n'as pas la chance d'avoir quelque chose comme ça, une idée, ça peut être de faire un premier passage, trouver une histoire très courte ou juste 2 pages d'une histoire, chercher les mots que tu ne connais pas, sans chercher à comprendre les phrases nécessairement, mais au moins chercher le vocabulaire. Et puis ensuite de revenir et d'essayer de lire cette page dans la continuité pour voir si maintenant tu arrives à comprendre et si c'est plus fluide. Donc c'est évidemment, c'est moins d'effort quand quelqu'un a fait le travail pour toi avant. Et c'est un peu moins décourageant que de devoir tout faire soi-même. Mais je ne sais pas si ça existe en français. Cette anecdote, ça montre aussi que une méthode où c'est pas forcément le bon timing, où tu l'as mise de côté au début de ton apprentissage parce que ça ne te correspondait pas ou ça ne répondait pas à un besoin à ce moment-là, peut-être que plus tard, ça va combler un nouveau besoin qui est apparu. Donc c'est pour ça que c'est important de toujours réviser le processus d'apprentissage. Donc quand dans le programme Feuille de route, par exemple, je t'explique comment faire des goal reviews, des points mensuels ou des points sur ton apprentissage pour réévaluer les actions que tu fais, voir si elles sont utiles, pas utiles et si tu as besoin de faire autre chose ou des choses différentes. Et en tout cas, le fait de lire comme ça, d'apprendre énormément de vocabulaire dans le but de lire ce livre, c'est pas juste apprendre des mots comme ça, c'est dans le but de lire le livre. Ça a des résultats immédiats en fait parce que j'apprends une grande quantité de mots assez rapidement. Je peux faire donc de plus en plus de connexions entre les mots. En japonais, donc c'est des caractères qui vont apparaître dans différents mots et donc ça aide à faire des connexions et à comprendre le sens d'un mot même si je ne sais pas le prononcer. Et de plus en plus maintenant, j'arrive à associer une prononciation ou deux, trois prononciations possibles pour un caractère. Donc, j'ai pas appris les caractères avec leur prononciation associée, mais j'apprends les mots. Et en apprenant les mots, mon cerveau se fait une espèce de règle. Il refait les règles lui-même de « Tiens, s'il est dans cette position-là, ça doit se prononcer plutôt de telle façon. S'il apparaît en deuxième dans le mot, ça doit plutôt être d'une autre façon. » Donc il y a des gens qui font l'inverse, il y a des gens qui apprennent le caractère et la prononciation associée. Et donc quand ils voient un mot, ils disent « Ah, le caractère est à gauche, il se prononce comme ça. » Et moi, ça m'ennuie, cette méthode-là. Ça ne m'intéresse pas. Moi, je préfère apprendre les mots et puis avec l'exposition très large, nourrir mon intuition de « Tiens, comment est-ce que ce mot peut se prononcer ?» Moi, ça m'amuse. Donc si ça m'amuse, c'est que ça marche. Enfin, c'est que ça marche. C'est efficace pour le processus parce que ça me donne envie de continuer, en fait. Et ce qui, en français, donc il n'y a pas de caractère, mais en français, il y a toutes les racines des mots. Donc, si tu réussis à faire des connexions entre les mots d'une même famille, après avec les suffixes, les préfixes, les mots qui ont une racine commune, il y a ce petit jeu de détective qui peut se passer en français aussi. Et ça, c'est le fun si t'aimes les énigmes ou que t'es comme moi et que ça t'intéresse de savoir comment sont construits les mots, comment ça fonctionne. Ça peut être une source de motivation d'apprendre en fait en tant que tel. Donc j'ai fait ça, j'ai acheté ces livres, je suis très contente. J'utilise peu Facebook, mais des fois les pubs Facebook marchent bien, elles sont bien ciblées. Donc merci Facebook. J'ai aussi commencé un programme de shadowing qui consiste à... C'est un... Sur une plateforme, en fait, une prof de japonais a pré-enregistré 3 mois de petites conversations. Les conversations, c'est des... Donc, doit y avoir 3 lignes par personne. La vidéo dure 5 minutes, donc avec un dialogue très très court et plusieurs répétitions de ce dialogue. L'objectif de ce cours, c'est de te faire travailler la prononciation en 10 minutes par jour. Travailler l'intonation du japonais, etc. Moi, j'ai pas trop de problèmes à ce niveau-là. En général, j'arrive bien à faire le shadowing, ça c'est pas un problème. Mais pourquoi j'ai acheté ce programme? C'est parce que j'ai besoin de plus d'exposition à des conversations naturelles et j'ai besoin de dire ces phrases. Je suis pas encore capable de les faire moi-même, donc ce que je recherchais, c'était un modèle et c'était de répéter des phrases que des japonais peuvent dire à un rythme naturel. Donc c'est vraiment comme ça que je l'utilise. ce qui n'est pas forcément comme ça que la prof vend ce programme, mais moi, c'est ce qui me convient. Donc, tu peux aussi, sens-toi libre d'adapter certains cours où tu te dis, tiens, les ressources me paraissent utiles, moi, je les utiliserais bien comme ça. Si ce n'est pas la même façon que le prof avait prévu, ce n'est pas grave. Fais-le à ta sauce, comme on dit, adapte pour tes besoins. Donc là, ça fait 15 jours. Je sais pas. J'ai déjà vu un impact au niveau de ma compréhension orale, où comme la vidéo, la conversation commence lentement et ensuite elle accélère le rythme. Donc la version finale, tu l'as au rythme full natif, donc la vitesse normale d'une conversation entre deux natifs. Et j'ai l'impression que ça m'aide à entendre plus clairement quand les gens parlent. J'ai l'impression de mieux distinguer les mots. Aussi parce que avec tout ce que je fais, je connais plus de vocabulaire. Donc tout ça combiné fait que mon vocabulaire augmente, ma compréhension orale augmente. Ça se traduit pas encore complètement dans mon expression orale, mais j'ai bon espoir que à un moment donné, ça va arriver. Ça arrive sur des petites séquences, sur les conversations du quotidien, des choses très simples, je sens quand même que je suis un peu plus à l'aise. Et l'autre chose utile dans ce programme, c'est que du coup, comme il n'y a pas beaucoup de corrections à faire sur mon audio, la prof m'envoie une question. Et donc, moi, je lui réponds. Ça me force à écrire un petit message par jour. Le message est très court, il fait 3 phrases peut-être, mais ça me prend un temps fou pour écrire. Mais ça me fait une pratique active et pour moi, je sais que mon style passe par l'écrit. Même en français, en anglais, dans toutes les langues, je préférerais toujours envoyer un message écrit qu'un message oral, sauf si le message écrit fait 3 pages, mais si c'est plus rapide à l'oral, ça m'arrive d'envoyer des messages vocaux. Mais en général, je suis plus à l'aise à l'écrit dans toutes les langues. Et donc là, le fait qu'elle m'envoie sa question, ça me force à réfléchir pour composer un message, appliquer ce que j'ai appris, vérifier des règles, etc. Et avant, c'était trop tôt, je ne le faisais pas. Même si j'avais l'opportunité, composer un message, c'était juste trop de temps, trop d'énergie, trop de doutes, d'imperfections. Je n'avais pas forcément envie d'envoyer des choses aussi imparfaites à une autre personne. Donc ce programme, ça me permet d'avoir une prof qui est dispo, qui est là pour ça. Elle ne me corrige pas forcément les messages écrits, sauf s'il y a des erreurs trop significatives. Mais en tout cas, ça me donne cet espace et ça me force à prendre le temps de le faire. Et rien que ça, c'est hyper utile. Et ce que je fais, j'ai dû en parler dans le podcast aussi au moment quand j'ai parlé des applications nous rendent-elles paresseux. Copilot est devenu mon nouveau meilleur ami. Ce que je fais quand j'envoie ces messages, quand je compose ces messages, en fait, je les compose moi-même. Ensuite, je vérifie avec Google Translate si c'est bien le sens que j'ai envie de communiquer, si mon message est compréhensible par Google Translate et qu'il n'y a pas de contresens, ce qui arrive. Donc, dans ce cas-là, je fais l'effort de corriger moi-même et de chercher ce qui ne va pas. Et ensuite, une fois que je suis satisfaite avec mon message et que Google Translate me comprend, je demande à Copilot, est-ce que c'est correct? Et fais les corrections nécessaires et explique-moi les corrections. Et il le fait très très bien en fait. Donc c'est pas forcément toujours la façon dont un natif l'aurait composé, mais il me dit, ah, pour plus de naturel, tu pourrais formuler ça de telle ou telle façon. Et ensuite, donc j'envoie mon côté perfectionniste est suffisamment rassuré pour envoyer un message qui ressemble à quelque chose à la prof. Donc voilà, si t'as pas essayé, ça peut être une petite stratégie que tu peux essayer pour communiquer un peu plus avec tes amis, mais que t'as un peu peur de leur envoyer des trucs qui ont pas de sens ou qui sont vraiment trop incorrects. Tu peux passer par une IA en amont pour corriger ton message. Alors, tu vas me demander, mais du coup, est-ce que j'ai encore besoin d'un coach ou d'un prof si l'intelligence artificielle peut faire tout ça? pourquoi est-ce qu'on aurait encore besoin de gens comme moi pour te coacher en français ? Il y a plusieurs raisons. Déjà, l'intelligence artificielle ne peut pas expliquer toutes les nuances. Aussi, on peut vouloir juste une relation humaine avec quelqu'un plutôt que Copilot. C'est utile comme ça pour vérifier un truc en passant, mais tu vois, mon message, je l'envoie quand même à une vraie personne. Je suis pas fan de ces... Il y a plein d'applications maintenant où tu peux pratiquer la langue avec une IA qui ressemble à un humain et où tu vas avoir une conversation qui ressemble à une conversation avec un humain. Mais moi, je préfère quand même avoir un vrai humain derrière le clavier, derrière l'écran. Donc voilà, j'utilise l'IA dans le but de communiquer avec quelqu'un. Avoir un coach ou quelqu'un qui t'attend aussi de l'autre côté, c'est une question de responsabilisation, de accountability, on dirait en anglais. L'IA, elle va rien te dire si... Ouf. C'est pas qu'elle va rien te dire, mais tu... Enfin, si, elle ne va rien te dire si tu n'envoies pas de message. Si tu auras peut-être un rappel automatique... Ah, il faut que tu pratiques aujourd'hui, tu as raté ta... Tu as brisé ta série. Mais il n'y a pas ce sentiment que si tu ne te montres pas, l'autre personne t'attend. L'autre personne attend quelque chose de ta part et ça, c'est extrêmement puissant pour se motiver à vaincre la procrastination. Tu vois, ce podcast, là, ça fait quelques jours que je repousse de l'enregistrer, mais je me dis que tu es là à l'attendre. Si c'est le cas, envoie-moi un message pour me motiver. Et donc, je me dis, il faut que je l'enregistre, ce podcast, parce qu'il y a quelqu'un qui attend derrière. J'ai des trucs à partager sur l'apprentissage, donc j'espère que quelqu'un trouvera ça utile. Donc voilà, cette question de accountability que ne peut pas communiquer de la même façon une IA encore, ça c'est important. Il y a aussi l'expertise quand même de quelqu'un qui a une formation... comme moi, en neurosciences, neurolanguage, en français, etc. Donc c'est en anglais aussi. C'est différent de l'accumulation de savoir d'une IA. C'est moins froid, on peut faire des connexions d'une façon différente. Enfin, voilà, ça ne remplace pas. Une IA ne remplace pas un humain. On peut aussi avancer de façon plus rapide si tu m'expliques ce dont tu as besoin, même si c'est pas clair pour toi, moi je peux t'orienter pour clarifier les choses et puis t'aider à trouver une direction et à voir comment tu veux procéder pour la suite. Je vais pas te plaquer un modèle établi sur ton apprentissage, mais plutôt t'inviter toi à réfléchir et à faire cette démarche personnelle. Et donc c'est hautement personnalisé aussi. Plusieurs façons d'utiliser le coaching linguistique avec moi en ce moment. Ça peut être soit le programme Feuille de route, qui est en autonomie, mais avec une séance initiale en one-on-one avec moi, donc personnalisée avec moi, en direct par Zoom, pour voir ta motivation, tes objectifs rapidement, et puis ton bilan linguistique, donc ton diagnostic linguistique, pour te permettre de démarrer. Donc ça, c'est une première possibilité. Une deuxième possibilité, c'est l'exploration écrite, pas expression écrite, mais exploration écrite pour te permettre de trouver ta voix française par le biais de l'écriture. Si tu es comme moi et que l'oral, c'est toujours compliqué, c'est toujours un peu frustrant, le passage par l'écrit, ça peut être satisfaisant, ça te permet de travailler d'une autre manière, de prendre plus de temps. Et je mets le lien dans les commentaires si tu veux en savoir plus sur ce forfait qui est disponible dès maintenant et donc de forme asynchrone, c'est-à-dire que tu envoies tes écrits et moi je les corrige dans les 48 heures en général avec du feedback détaillé, mais on n'est pas obligé de caler un rendez-vous, d'être disponible en même temps, c'est un peu plus flexible que le coaching en one-on-one. Que je recommencerai à l'été, donc au mois d'août ou septembre, je recommencerai les séances de coaching hebdomadaires ou mensuelles aussi, si tu veux juste un suivi, une accountability, mais pas nécessairement des séances hebdomadaires parce que tu travailles avec quelqu'un déjà ou que tu n'as pas le temps d'avoir des rendez-vous chaque semaine. Donc voilà, plusieurs possibilités. Abonne-toi à ma newsletter pour être informé des nouveaux programmes, de tout ce qui se passe aussi. J'envisage de lancer un nouveau programme pour les niveaux avancés spécifiquement. Pareil, à l'été ou à l'automne, donc quand j'aurai terminé mon contrat au Japon, il y a plein de choses qui vont se passer, donc n'hésite pas à m'envoyer des messages pour me dire ce dont tu as besoin. Inscris-toi à ma newsletter et reste en contact, comme ça, je pourrai vraiment te proposer des choses qui sont utiles pour toi. Donc ça, c'était le petit point actualité de My Polyglot Life et de comment travailler avec moi. Et une dernière chose aussi qui m'aide à progresser en japonais, c'est que récemment, j'ai rencontré plus de plus de japonais qui parlent anglais, mais tout le monde dans le groupe ou dans les environs ne parle pas nécessairement anglais, ou alors on peut alterner entre l'anglais et le japonais, et donc ça me permet de pratiquer un petit peu plus, d'avoir envie de pratiquer, d'avoir une utilité en fait à pratiquer, et puis de leur envoyer quelques messages. Donc là encore, avant de me lancer complètement dans la conversation, j'envoie des textos et c'est plus facile, ça me permet vraiment de commencer ces actions de communication, mais dans un contexte où je peux contrôler un peu plus et vérifier ce que je dis et ce que j'envoie. Donc on va voir comment ça évolue. J'ai encore quelques mois ici, donc j'espère bien d'ici quelques temps que voilà, la communication en japonais devienne plus facile et que surtout que j'apprenne du vocabulaire. Je vois que l'épisode est assez long, donc je te parlerai du vocabulaire, de la question du vocabulaire dans un autre épisode. Parce qu'il y a plein de choses à dire là-dessus aussi. Et au niveau intermédiaire, la grammaire c'est important, mais le vocabulaire, c'est ce qui va te permettre vraiment de petit à petit d'avancer. Parce qu'il y a énormément de mots en français, en japonais, en anglais aussi, mais en français peut-être encore plus. Il y a une variété infinie de mots et les gens n'utilisent pas tous les mêmes mots. Dans des contextes différents, on utilise différents mots, des synonymes, des images. Il y a une telle richesse de la langue que plus tu connais de mots, plus tu vas avancer vite parce que mieux tu vas comprendre ce qui se passe. Et c'est vraiment fondamental. Donc voilà, je t'en dis pas plus. On se retrouve très bientôt pour d'autres épisodes de My Polyglot Life en français. Et voilà, je te souhaite une bonne fin de semaine. Ciao, ciao.
Voilà, si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner et d'en parler autour de vous. Et je vous dis à très bientôt sur My Polyglot Life en français.